Clip Radio. Just what is it that you want to do?
Ça, c'est générique.
Sur Radio Panique.
We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time.
Clip Radio.
Bonsoir, bienvenue à l'émission du Clip Radio. On est un peu désolé, on a commencé un peu en retard dû à quelques problèmes techniques. Mais donc voilà, c'est notre émission mensuelle, donc de chaque deuxième mardi du mois, comme vous l'avez entendu. Cette émission sera donc à thème de la santé mentale. On a plusieurs invités pour vous ce soir. On a deux personnes qui viennent de deux SBL différentes. On a une personne de la SBL Transit, une personne de l'ASBL Le Pont, deux personnes qui sont donc des psychologues, vous allez en apprendre un peu plus dans l'émission. Et on a quelques invités, deux, trois invités surprises qui vont se présenter. Donc en première partie, on aura une introduction un peu du sujet, et au fur et à mesure de l'émission, vous allez découvrir un peu plus ce que c'est la santé mentale, comment ça se passe, et qui s'en occupe. À vous au studio, qui est-ce qu'on a aujourd'hui ?
Peut-être aussi avant de commencer, il faut dire que l'émission, c'est notre émission, mais c'est votre émission aussi. Hein. Donc voilà, c'est une émission participative. Alors bonjour Mario, comment ça va ?
Oui, ça va, tranquille.
Ouais. On va laisser la parole aussi un peu, voir que les personnes se présentent d'elles-mêmes. Donc on a de la ASBL Transit.
Mort. Ouais, salut. Moi, je m'appelle Mar et voilà, je travaille comme psychologue dans l'équipe de rue de l'ASBL Transit.
Et on a aussi Nadine de l'association Le Pont.
Bonjour, donc moi c'est Nadine, je travaille au service Le Pont qui appartient à l'association Molenbeek Vivre Ensemble à Molenbeek.
Et avec Nadine, on a Rachid qui va faire tout à l'heure un petit témoignage.
Bonsoir.
Bon, quelques infos aussi par rapport à Clip Radio, que c'est un projet qui vient de Dune, que c'est une émission participative. Voilà, on a aussi Tony en salle, hein, l'air de rien. Donc voilà, qui est de Dune, c'est lui qui chape le tout. Alors bon, voilà, quand on parle de santé mentale, je lance la question, de quoi parle-t-on ? On va dire, je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Enfin voilà, on est aux dames. Voilà, ne nous disputons pas, on va lancer la truc. Nadine, tu nous dis quelque chose ? Enfin voilà, peut-être présente aussi l'association pour laquelle tu travailles aussi.
Je vais peut-être commencer par présenter un peu le service dans lequel je travaille.
Et puis on rentre dans le vif du sujet.
Ok. Donc, l'ASBL, Molenbeek Vivre Ensemble, était plus connue avant sous un autre nom, c'était la CLES. C'est une grosse association paracommunale de Molenbeek qui propose différents services aux Molenbeekois. Je ne vais pas toutes les énumérer. Il y a soutien juridique, soutien par rapport au décrochage scolaire, l'accueil des primo-arrivants, des travailleurs de rue, des maisons de quartier, service d'aide aux justiciables et le service Le Pont. Le Pont, la présentation est très simple, c'est quand la consommation pose problème. Donc c'est vraiment un service adressé aux Molenbeekois et aux personnes qui sont sur Molenbeek. Alors, quand la consommation pose problème à la personne et ou à son entourage, on reçoit les personnes directement concernées, on reçoit l'entourage. On est un tout petit service dans une grosse ASBL puisque nous sommes deux psychologues. Nous allons en prison, nous allons dans les rues, nous recevons les personnes au bureau, nous allons à domicile et nous faisons des accompagnements. Tout ça à deux psys, c'est un peu court, donc nous misons beaucoup, beaucoup sur le travail avec les autres services et les autres associations.
On va présenter la personne de Transit. Hein.
Voilà, alors je continue. Moi, je travaille, comme j'ai dit, pour l'équipe de rue de l'ASBL Transit. C'est une équipe où il y a 8 de 14 de rue, plus une psychologue et un coordinateur. Donc, nous, on doit aussi faire appel à des autres associations, justement, pour pouvoir aider les personnes et créer, justement, un réseau autour d'eux. Parce que, voilà, on n'est pas assez nombreux. Et nous, notre association, c'est les Transit et la Maison Maître, c'est un centre d'hébergement et un centre de jour pour usagers de drogue et d'alcool aussi. Et voilà, et là, les personnes peuvent venir se poser pendant 13 heures. Et nous, on est justement, on fait partie de l'équipe de rue. Donc, les choses qu'on fait en particulier, c'est travailler avec les personnes qui sont en situation de rue et qui parfois ne rentrent pas dans les institutions ou n'ont pas vraiment les contacts avec des autres services et ne connaissent pas vraiment les, voilà, toutes les offres qu'ils puissent avoir justement pour les aider. Donc, on va à leur rencontre dans ce lieu de vie, aussi à domicile, on reçoit aussi au bureau. Et après, on fait des accompagnements sociaux et des suivis ici, là dans mon cas. Et on fait aussi des séances matérielles parce qu'on travaille dans la réduction des risques.
Voilà, donc après cette belle présentation, on va entamer le sujet de voir un peu c'est quoi la santé mentale en rue. Enfin, de quoi parle-t-on en fait ? Est-ce que les gens, les jeunes sont débiles? Est-ce que, santé mentale, c'est quoi
en fait? En russe, c'est quoi la santé mentale? Ils sont frappadingues, ils ont vraiment besoin d'aide. Comment on les aide? Comment on les suit? Parce que suivre quelqu'un en russe, ça doit être très difficile vu qu'on ne sait jamais où il est. Bah, pas de place fixe, c'est pas comme si on va chez lui, quoi.
Voilà. Donc, et d'ailleurs, on peut demander aussi à Rachid ce que toi tu en penses, hein.
Tout simplement, santé mentale, c'est pas être débile.
Non,
ça peut être la dépression, ça peut être la consommation, c'est une santé mentale, psychologique. Ça peut être plein d'autres choses. Donc, après, il y a l'extrême aussi. Mais bon, ce qui touche le plus dans la rue, à mon avis, c'est tout ce qui est dépression, tout ce qui est découragement, ça joue sur le mental. Tout ce qui est des maladies, on va dire. Pas énorme, mais il faut savoir aussi qu'il y a des gens des schizophrènes dans la rue, qu'il y a pas mal aussi d'autres gens qui doivent vraiment être internés, et que c'est pas dû à rien aussi, quoi. Il y a toujours quelque chose derrière.
Moi, ce que je réalise aussi, c'est que quand on approche les gens en rue, c'est très dur de trouver une personne qui n'a pas un petit souci ou pas un petit problème mental, que ça soit dû à l'isolation, que ça soit dû à la consommation, que ça soit aux personnes qui côtoient, que ça soit à la... Allez, moi je connais des gens qui passent leur journée en rue et des fois ils passent pas une journée sans parler à quelqu'un parce que ils sont ignorés par le public autour d'eux et tout ça. Donc tout ça, ça joue fort mentalement sur les gens.
Entièrement d'accord.
Donc comment est-ce que vous vous faites en tant que travailleur de rue pour essayer d'aider ces gens et les motiver et pour continuer à leur donner une raison de continuer à faire ce qu'ils font, quoi.
Donc, je pense qu'il y a quelque chose, effectivement, avec les personnes qu'on retrouve en rue, il y a quelque chose qui est difficile, c'est qu'ils ont eu pas mal de passages déjà. Donc l'idée, c'est vraiment de créer d'abord un lien. Comment créer ce lien? Moi, j'appelle ça de l'apprivoisement réciproque. Donc repasser encore. Si je dis que je reviens tel jour, je reviens tel jour, même si la personne n'est peut-être pas là parce qu'elle a oublié, c'est tenir toujours et construire le lien. Que ce soit en rue, que ce soit en prison, d'ailleurs, c'est un peu aussi tenir sa parole pour des personnes qui ont, ça je l'observe souvent quand même, perdu confiance en elles-mêmes, perdu confiance dans l'autre, dans les institutions qui se font jeter un peu partout. On n'a pas grand chose à pouvoir proposer parfois, parce que c'est saturé, mais le lien humain est là. C'est de pouvoir parler avec ces personnes, pouvoir les écouter et pouvoir d'abord et avant tout, quelle que soit la difficulté auxquelles elles sont confrontées, c'est on parle à des êtres humains, nous sommes des êtres humains et nous parlons entre êtres humains. Donc voilà, ça c'est vraiment le travail d'approche qui prend parfois énormément de temps. Et parfois ça prend, parfois ça prend pas. Une fois que ça prend et qu'on commence à être dans une discussion, quelque chose qui me paraît important pour moi, c'est de toujours voir un peu, avant de vouloir proposer des choses, qu'est-ce que la personne a déjà fait comme démarche? Avec qui est-elle en lien? Parce qu'il y a parfois d'autres, bien souvent, ce qu'on observe. Je travaille notamment sur une place à Molenbeek qui est assez connue, qui s'appelle la place Ribeaucourt, où on a beaucoup de personnes consommatrices qui se retrouvent là. Et quand je les écoute, en fait, je me rends compte qu'elles ont rencontré, malgré tout, beaucoup d'intervenants déjà. Des intervenants qui, parfois, sont déjà en train de faire des démarches. Donc, je ne vais pas encore aller proposer, une fois de plus, de faire des démarches qui sont déjà en cours. C'est, OK, comment pouvoir renforcer? Je prends mon téléphone. Ça fait longtemps que tu n'as plus vu Marre de Transit ou quelqu'un d'autre, est-ce que tu veux, on appelle. Ok, on appelle pour recréer le lien, pour, on est là. Et on, si jamais, aussi, quand il y a plusieurs intervenants, ce qu'on propose parfois, on l'a déjà fait avec Marre d'ailleurs, c'est, et si on se mettait ensemble, tous ensemble autour d'une table? Je peux vous garantir qu'ils sont venus. Qu'ils sont venus à chaque fois, et c'est eux qui ont nommé les personnes qu'ils voulaient avoir autour de cette table. Voilà.
Ouais, parce que ouais. Moi, je me demande quand même, en ce moment, on entend plein d'équipes qui font des maraudes, que ce soit Transit, la masse, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, ouais, presque vous marchiez dessus, quoi, que y a, je ne sais pas, ouais,
c'est un peu
vous marchiez dessus,
c'est un
qu'il y a
peu
trop
le
de
risque.
Gens, en fait, qui s'occupent de
oui, c'est justement
personnes.
Pour ça, je pense que les premières choses qu'on fait, c'est, voilà, déjà... rencontrer les personnes, comme a dit Nadine, prendre contact avec eux, et essayer de créer ces liens, et après voir un petit peu avec la personne, voilà, pour qui elle est déjà suivie, à qui elle connaît déjà, et surtout si elle est d'accord aussi, si nous on va rentrer dans le suivi, s'il est d'accord, à qu'on puisse peut-être parler avec les autres intervenants pour voir qu'est-ce que c'est déjà fait, parce que parfois la personne ne se rend pas compte non plus qu'il est en train de faire des demandes à droite et à gauche, un peu à tout le monde. Et on ne peut pas non plus, comme tu dis, se marcher sous les pieds et faire tous les mêmes choses, parce que parfois ça peut justement ralentir les procès de la personne.
Bon, maintenant, peut-être que dans la tête des personnes, on se dit, je vais prendre 3 assistantes sociales, comme
ouais, ça va aller plus vite.
Triple mes chances que ça aille une fin. Rachid, par exemple, toi, comment as-tu rencontré Nadine ou bien Marre, comment ça s'est fait en fait? Tu es accroché justement.
Ben voilà, c'est ce que je vais plus ou moins expliquer. C'est vrai que voilà, déjà il y a la consommation, la toxicomanie, ben, on peut le dire, c'est quand même aussi une maladie mentale, parce que ça joue psychique, ça joue physique, ça joue donc, en tout cas c'est une maladie. Mm-hmm. On a déjà ce gros souci-là, déjà. Donc, conclusion, c'est vrai que moi aussi, bon, je faisais confiance à cette assistance, j'allais essayer de l'autre côté, j'allais à l'autre CPS 3 mois, j'allais à l'autre CPS 3 mois, on m'a fait tourner en bourrique, j'étais tribunal du travail, et ainsi de suite. Mais malheureusement, ben, il faut trouver les bonnes personnes. J'ai trouvé une bonne structure. Ça ne sert à rien de courir à gauche, à droite, truc, et avancer tout doucement, ce qu'on appelle un trajet, quoi, tout simplement. Comme ça, ça ne sert à rien qu'on va crier. J'ai crié, hein, j'ai retourné des bureaux, si vous voulez savoir. J'ai retourné des bureaux parce qu'on m'a fait balader à gauche, à droite et tout. Après, il faut agir plutôt par étapes. D'abord, soi. Ce n'est pas compliqué. Si toi, tu es bien dans ta peau, tu t'es soigné, tu vas vouloir avancer. Après, comme tu dis, il faut une structure. Ça ne sert à rien d'aller voir 10 psychologues, 10 maraudeurs, 10 assistants sociaux, 10 bazars. Il faut malheureusement accrocher, lier confiance avec une structure. Il faut garder un psychologue, une association, un infirmier, une ASBL, et monter la structure et avancer avec un point, quoi. Parce qu'au fait, si on commence à aller partout, l'autre va te faire tourner en rond, l'autre va te dire autre chose, l'autre va te dire non, moi je... Allez, moi, ma façon de procéder, c'est comme ça. Après, on part dans quoi? Ouais, mais il n'y a plus de loi. La loi, c'est la même. Ouais, mais non, mais j'ai droit, mais j'ai ci, mais j'ai ça. Et au fait, on perd des 6 mois, un an, à rien foutre, quoi, au fait. C'est l'engrenage, tout simplement. C'est tout simplement l'engrenage, parce que c'est vrai que c'est pas évident du tout. Je me suis aussi retrouvé à dormir dans les fonds de parking entre deux voitures. Enfin, je vais en passer des histoires. Donc, voilà. C'est vrai que c'est pas évident. Le truc, au fait, c'est de trouver une bonne structure, tout simplement.
Ouais, et comment tu trouves le courage quand même de comme tu dis, t'as dormi dans les garages, comment tu trouves quand même le courage de quand même continuer à faire tes démarches? Parce que ça doit pas être facile à aller à un rendez-vous le matin, hein, pendant que t'as vraiment mal dormi, quand t'as réveillé peut-être au coup de pied ou...
Non, ça je te le garantis, hein, même sans rien du tout, c'est très dur à me réveiller parce que les répercussions, ils sont là. Donc manque de sommeil et ainsi de suite. Et puis surtout la volonté, il n'y a pas photo, c'est pas une formule magique au fait. C'est je veux, j'ai un but, je vais y arriver. Tout le monde est capable. T'es un être humain, t'as consommé la même chose que moi, j'ai consommé la même chose que toi, j'ai le même corps, c'est un corps humain, c'est pas... Donc après, c'est pas magique. Je veux, je vais y arriver, il faut que je trouve une solution. Point barre. Si tu t'en tiens déjà à ça, au lieu de chercher 50 000 solutions, ce que moi je faisais, donc ce que moi je me faisais, donc voilà. Après, justement, en me basant sur ça, ben, je me suis mis par étapes. Première solution, c'est me soigner. qui dit me soigner, ben, j'avais ma bonne structure, ma psychologue. Je suis passé en, si vous voulez savoir, je crois que c'était en quelle année, en 2008 ou en 2007 qu'ils nous ont dit à Transit. Enfin, pour vous dire, je suis passé un peu partout. Donc, j'ai aussi maraudé. Donc, voilà. Après, il y a un facteur déclencheur, en fait. Le ras-le-bol, la peur. Et voilà, le but, c'est d'abord structurer, au fait, tout simplement. Comme on cherche la structure qui va nous couvrir, nous aider à s'en sortir, il faut structurer soi-même. Et moi, mon problème, c'était les émotions. Donc voilà, qui était lié à la consommation, à plein de trucs, et je faisais, sans exagération, la psychologue est là pour le dire, des excès, total. Donc moi, c'est pas... je peux être cru à un gramme, c'est 20, 10, donc voilà, c'est des excès total, du disjonctage. J'ai fait partie d'une procédure Nixon, donc j'ai failli me retrouver interné quand même, parce que j'ai mélangé les médicaments et autre chose. Et puis voilà, c'est une structure à faire, je vous dis, c'est pas magique. Il faut absolument... se fixer un but. Je veux, et surtout dire, je vais réussir. Parce que tout le monde est capable, tout le monde est capable. Je vais réussir. Tu pars dans le positif, tu réussis. Moi aussi, j'étais, demain, je dépense mon salaire, le prochain salaire, la prochaine fois, demain. Mais en attendant, les gars, y a des années qui passent. J'ai 48 ans, ma moitié de ma vie, elle n'a pas été passée en prison. L'autre moitié, dans les rues, dans la toxicomanie. Et puis voilà, il y a un certain moment où on réalise qu'on n'avance pas, au fait. On n'avance pas. Il faut tout simplement se fixer un but. Moi, j'ai dû passer par l'hôpital psychiatrique, ce qui m'a choqué, parce que moi, je suis rentré à l'hôpital psychiatrique de moi-même. J'ai vu des schizophrènes, j'ai vu des gens qui chiaient dessus, j'ai vu des gens qui ont été piqués, pire que la prison. Je vous le garantis, l'hôpital psychiatrique, c'est pire que la prison. Après, voilà, c'est chacun son truc. Il doit avoir quelque chose qui déclenche. Mais je vous dis, la formule magique ou la potion, malheureusement, je vais chez Merlin l'Enchanteur, je bois la potion et demain j'arrête tout, elle n'existe pas. C'est je veux et je vais y arriver. Point barre. Après, c'est les étapes de chacun à suivre. Moi, pour que je vais bien, parce que je n'ai pas encore fini mon trajet de soins, je n'ai pas encore de domicile fixe, donc je suis arrivé au bout, je vais tout avoir. Et j'ai tout simplement réalisé que malheureusement, il faut suivre les lois. Quand ça ne va pas là, il faut aller dans une association qui les contredit, il faut aller au tribunal du travail, malgré que c'est une perte de temps, qu'il faut aller voir des avocats, qu'il faut que de nous-mêmes, même si on crie, que la diplomatie, au fait, ça passe mieux, tout simplement.
J'ai juste une question pour les deux psychologues. Je viens d'entendre la procédure Nixon. C'est quoi exactement? Parce que pas tout le monde doit savoir ce que c'est.
Ok. Donc avant, on parlait de colocation. La procédure Nixon, quand une personne se met en danger, met autrui en danger, refuse tout soin...
Quoi ? Je tape des haches et des couteaux dehors. Ouais.
Refuse tout soin, et donc met autrui en danger elle-même, la famille, le médecin, peuvent s'adresser au juge de paix pour demander que la personne soit mise en observation de force. Donc c'est la police qui vient chercher la personne et le met en psychiatrie. C'est le juge de paix qui prend la décision.
Ok. On va passer une petite plage de musique. Ça sera Grand Corps Malade avec...
Grand Cœur Malade.
Grand
j'ai
corps
pas les mots.
Malade.
Grand Corps Malade avec J'ai pas les mots.
Elle contient voilà. Un peu près Grand Corps Malade avec J'ai pas les mots.
Non, voilà.
Normalement.
Il est de ces événements qui sortent tout le reste de nos pensées. Certaines circonstances qui nous stoppent net dans notre lancée. Il est de ces réalités qu'on n'était pas prêt à recevoir et qui rendent toute tentative de bien-être illusoire. J'ai pas les mots pour exprimer la puissance de la douleur. J'ai lu au fond de tes yeux ce que signifiait le mot malheur. C'est un souvenir glacial comme ce soir de décembre où tes espoirs brûlants ont laissé place à des cendres. J'ai pas trouvé les mots pour expliquer l'inexplicable. J'ai pas trouvé les mots pour consoler l'inconsolable. Je n'ai trouvé que ma main pour poser sur ton épaule, attendant que les lendemains se dépêchent de jouer leur rôle. J'ai pas les phrases miracles qui pourraient soulager ta peine. Aucune formule magique parmi ces mots qui saignent. Je n'ai trouvé que ma présence pour t'aider à souffrir et constater dans ce silence que ta tristesse m'a fait grandir. J'ai pas trouvé le remède pour réparer un cœur brisé. Il faudra tellement de temps avant qu'il puisse cicatriser. Avoir vécu avec elle et apprendre à survivre sans, elle avait écrit quelque part que tu verserais des larmes de sang. Tu as su rester debout et je t'admire de ton courage. Tu avances la tête haute et tu traverses cet orage. À côté de ton épreuve, tout me semble dérisoire, tout comme ces mots qui pleuvent que j'écris sans espoir. Pourtant, les saisons s'enchaîneront saluant ta patience. En ta force et ton envie, j'ai une totale confiance. Tu ne seras plus jamais le même, mais dans le ciel, dès demain, son étoile t'éclairera pour te montrer le chemin.
Voilà, c'était encore malade avec j'ai plus les mots. Donc on avait entendu Rachid qui a parlé avant, qui nous a dit, qui avait un bon petit message, et on a très bien compris que c'est tu n'avances pas si en écoutant les autres, hein, tout vient de soi-même. Donc
ouais, quand on veut, on peut.
Si moi je veux faire une démarche, c'est toi qui dois prendre une démarche parce qu'en écoutant les autres, tu perds un jour, deux jours, une semaine, un an, et comme tu disais, c'est comme ça que tu perds du temps. Et tu t'écoutes toi-même, c'est comme ça. Et se fixer des petits buts, hein, faut pas faire 10 choses en une journée. Si tu fais une chose par jour, c'est une chose de faite. Et puis voilà, c'est une chose que tu dois pas faire le lendemain, mais c'est une chose et ça te motive à continuer à améliorer les choses. Donc par contre, maintenant, on va penser à l'avis de nos deux psychologues qui sont autour de la table. Ouais. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus?
Quand même une nouvelle équipe, que ça s'est mis en place il y a pas longtemps. Est-ce que vous avez du mal à vous mettre en contact avec les gens où ils vous regardent, encore des assistantes sociales ou encore des psychologues? Est-ce que l'approche est facile en fait, des gens?
C'est comme dit Nadine, la majorité des personnes, ils sont déjà rencontrés énormément de professionnels que parfois, ils sont déjà fatigués, ils ont perdu la confiance aux gens. Et les choses qu'il faut faire, c'est uniquement passer les voir, et parfois ça prend du temps. Justement, tu peux parler de tout et n'importe quoi avant de commencer vraiment à pouvoir aider la personne, et que la personne s'ouvre et puisse rencontrer ses problèmes et il puisse te demander de l'aide. Parce que les choses que nous on fait, c'est justement ça, c'est écouter la personne et après voir en quoi on peut les aider, et pas essayer de diriger ça. Diriger sa vie.
Diriger,
merci. Tu es espagnol, tu ne parles pas très bien. Diriger sa vie, mais prendre les décisions que lui, qu'il veut mettre en place, et essayer un petit peu, l'orienter, et pour qu'elle ne perde pas de temps, pour qu'elle ne tourne pas en ronde, et aussi, voir un petit peu quel est son projet, respecter sa temporalité aussi. Parce que parfois, c'est comme on a dit, il disait, et pas toujours la personne est motivée pour bouger. Même si on a accordé ces jours-là faire des démarches, peut-être il faut attendre quelques jours, peut-être il faut attendre quelques mois. Donc on est à l'écoute. Et quand la personne est prête, et on essaie justement de travailler avec lui dans son intérêt, et pas à l'inverse. Pas en essayant justement d'imposer les choses, sinon en prenant ses décisions en compte et en les soutenant.
Ok, c'est comme toi Nadine, toi tu accompagnes aussi des gens qui sortent des prisons. Comment se passe en fait la transition de quelqu'un qui suit en prison, de quelqu'un qui en fait sort de prison, qui se retrouve en rue, c'est encore une claque dans la tranche en fait.
Ok, pour l'instant Ça ne m'est pas encore arrivé.
Ah, okay.
D'accompagner quelqu'un à l'intérieur de la prison, donc ça fait 10 ans que je fais ça. D'accompagner quelqu'un dans la prison, et puis au niveau de sa sortie, je n'ai pas encore eu quelqu'un qui se soit retrouvé en rue.
Ça doit arriver
là
quand même.
Là où je constate, c'est des personnes qui sont en rue, quand on fait un peu, qu'on est en lien et ce qu'elles nous expliquent, c'est que nous avons beaucoup de personnes, et ça je vais expliquer un peu ce que c'est, qui ont fait un parcours en prison et qui sont sortis ce qu'on appelle en fond de peine. En deux mots, ça veut dire quoi? Il y a eu, après l'affaire du trou, une proposition que les personnes ne purgent pas l'entièreté de leur peine, sortir et puis ne rien avoir à la sortie et se retrouver tout seul. Parce que là, nous avons beaucoup de personnes qui sortent et qui se retrouvent en rue. Et donc la proposition, c'est quoi? Nous vous proposons de sortir progressivement, ce qu'on appelle des permissions de sortie d'une journée, puis en congé pénitentiaire, puis éventuellement en surveillance électronique, et puis en ce qu'on appelle la libération conditionnelle. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la personne sort avant la fin de sa peine, mais est toujours suivie, sous condition. Et donc la personne, même si quelque part ça peut un peu la booster aussi, donc bien souvent, beaucoup, soyons très clairs, font appel à nos services, ce qu'on appelle des services d'aide aux justiciables, parce que se préparent à la sortie et qu'ils savent très bien qu'ils auront des conditions à suivre, notamment un suivi psy. Et donc, moi, on saisit la balle au bon à ce niveau-là, on va voir la personne, et comme en rue, on essaye de créer un lien, un apprivoisement, une relation de confiance au-delà de ces conditions, pour pouvoir travailler avec elle. Où allez-vous aller? Comment est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. On les a vus 2, 3, 4 ans en prison. Et puis, il y a ce lien. Et les personnes viennent chez nous, au bureau alors, progressivement. Et c'est tout le travail en lien avec mes collègues du service communal d'accompagnement des personnes incarcérées, qui travaillent plus au niveau psychosocial, en lien avec éventuellement d'autres services, pour pouvoir les accompagner à trouver, et c'est pas simple quand on a un casier judiciaire, une formation, un boulot, un logement, etc. Ce que je voulais dire aussi, en entendant Marc, que ce soit pour la rue, que ce soit pour les personnes qui sortent ou qui sont en prison, on peut pas non plus vendre des chimères. On est vraiment tout le temps à l'écoute de la personne, de ce qu'elle veut, mais on est confronté, et c'est extrêmement douloureux aussi pour les travailleurs psychosociaux, à plusieurs choses. La personne veut faire un trajet de soins, veut être hospitalisée. Ok, il n'y a pas de place, il faut attendre, il faut rappeler encore. Toutes les semaines, il faut appeler, savoir s'il y a une place. Hein? En attendant, la personne a le temps de démoraliser. Ouais. Donc il y a le temps aussi de la prison où la personne sort de prison avec les contraintes de la prison, et puis il y a le temps de la santé qui n'est pas toujours le même, et donc la personne, le risque c'est que la personne, et ça arrive souvent quand elle sort de prison, se retrouve sans rien, juste aller voir la psychologue parce que c'est sous ses conditions, mais sans rien. Et donc c'est toute l'importance de continuer à travailler le lien à ce niveau là et de maintenir, et de se dire, ok, on est tout aussi démunis, mais on est là. On est là. Et c'est, moi, ce que j'apprends vraiment, c'est l'humilité, la modestie, quoi. Et quand aussi, quand je ne sais pas, la personne me demande quelque chose, je pense, je ne sais pas moi, elle n'a pas de papier, quelque chose comme ça, je ne sais pas, je vais chercher avec toi un service qui pourra t'accompagner. Soit je connais le service parce que j'ai eu des retours d'autres personnes, ou que je connais le service et je dis, ok, va. Soit je ne connais pas le service et je dis, je ne sais pas, essaye, fais-moi un retour, comme ça je pourrais éventuellement le conseiller à d'autres personnes.
Ben moi, ce que j'ai l'impression de voir dans la rue quand même, c'est que je vois des gens, je sais pas, hein, je vois des gens de plus en plus jeunes en fait.
Oui.
C'est tendance ou c'est moi qui hallucine là-dessus
Non,
je pense que oui, il a des publics de plus en plus jeunes, et parfois on est un peu bloqué parce que... Et une chose que ça m'a fait un peu rigoler et ça m'a fait la peine aussi, c'est un jour, quand j'ai travaillé encore dans une autre association, dans une réunion, j'ai demandé, voilà, on parlait de la jeunesse, et j'ai demandé qu'est-ce qui passait avec les gens quand ils vont en IBPJ. Et c'était des consommateurs. S'ils avaient des programmes, justement, à l'intérieur de IBPJ pour le méthadone et pour tout. Et là, ils m'ont dit, voilà, tout le monde rigolait, comme les gens, ils ne consomment pas. Et la réalité, c'est pas vraiment la même. Si tu tournes un peu en rue, tu trouves des personnes de plus en plus jeunes. Et on a un peu des difficultés justement à travailler avec ces personnes parce que la majorité des services n'acceptent pas les mineurs. Donc on se retrouve vraiment coincé et tu ne sais pas trouver une solution d'hébergement pour la personne. Parfois, tu ne sais pas non plus les ramener dans un centre de traitement parce que ce n'est pas adapté pour les personnes mineures. Et ça, c'est quand même dommage parce que la majorité des personnes, quand ils commencent dans la consommation de drogue, c'est là qu'ils vont prendre le plus de risques. Ouais. Et possiblement, ils vont même s'infecter des maladies parce qu'ils n'ont pas des connaissances, parce que les services, ils ne sont pas là-bas pour les donner de l'aide. Donc après, quand on les retrouve, après quelques années après, la personne, il est déjà bien plongé dans le désespoir. Et c'est pour ça que je pense aussi que les gens ils ont perdu justement la confiance aussi aux services qui les entourent. Et par rapport à ça que disait Nadine, des prisons, ça c'est un truc que ça me choque. J'ai dit avant que j'étais espagnol, donc j'ai travaillé aussi en Espagne comme psychologue. Et j'ai travaillé aussi en prison, de la préparation à la sortie. Et là, la préparation à la sortie, et justement, on travaille la personne, et comment il va prendre la vie à l'extérieur et qu'est-ce qu'il va faire, sinon aussi on essaie de créer tout un réseau pour que quand la personne sort de prison, il se retrouve déjà avec un traitement, un centre pour y aller justement et se soigner s'il veut, et peut-être un appartement supervisé, peut-être un centre de cure, de post-cure, ou un autre centre plus adapté à ses besoins. Sauf qu'ici, je vois que moi, je rencontre énormément de personnes que je connaissais avant qu'ils rentrent en prison et qui sont sortis, et ils sont sortis même sans un titre de transport pour rentrer en ville. Et ils sont rien, et encore, il faut attendre que les services comme les CPAS, ils les donnent une aide pour pouvoir vivre, et ça, parfois, ça prend un mois minimum.
Oui, parce que je crois que politiquement, vous n'êtes pas trop aidé dans votre travail. Je crois que les politiques sont assez réticents. Déjà, quand on parle de toxicomanie, ça doit être quand même assez chaud pour avoir des aides. Ouais, les gens deviennent réticents, quoi. Surtout les politiques. Je crois qu'ils vous laissent un peu de gauche, quoi.
Oui et non. Si je parle vraiment au niveau de Molenbeek, quand même... Il y a cette fameuse place Ribeaucourt qui est connue par les Bruxellois. Et il y a, et ça, que ce soit Molenbeek ou ailleurs, de plus en plus de personnes dans les rues, on le dit, et de plus en plus de consommateurs dans les rues. Donc ça pose évidemment problème aussi aux politiques locales.
Ça dérange.
Ça dérange, et puis quand même, bon, c'est quand même des êtres humains aussi derrière, hein.
Oui.
Ça dérange, et c'est ce sentiment toujours d'impuissance. Là où il faut faire attention, c'est de ne pas se dire, OK, on a des services compétents, donc ils vont s'en sortir, et puis alors on a des révoltes comme ça sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que ce gars fait toujours en rue, qui l'a aidé, etc. Et donc il faut faire attention de ne pas se remballer la patate chaude, mais de travailler tous ensemble. Là où j'aimerais bien quand même, moi perso, c'est d'être les travailleurs de terrain, les personnes qui sont vraiment sur le terrain, les personnes qui ont connu ça de l'intérieur, qui ont fait un bout de chemin et qui ont la confiance suffisante pour pouvoir s'exprimer, c'est de pouvoir être vraiment en rencontre plus régulière avec le politique. Plutôt que par des rapports d'activité, des écrits qu'on lit ou qu'on ne lit pas, mais qu'il y a vraiment quelque chose, quitte à ce qu'ils viennent de temps en temps avec nous dans les rues, et constate avec nous, pour prendre vraiment conscience de cette difficulté-là.
Ouais. On n'a pas de temps à perdre, à mon avis.
Ouais, je ne les vois pas trop revenir dans la rue non plus.
Justement, à un moment, on a parlé de la motivation des personnes pour aller de l'avant, mais voilà, de par ma propre expérience, je me retrouve devant des services publics, et je suis vu comme une merde. Enfin, je ne sais pas, quand tu vas... un service à la commune, au CPAS, je sais pas, quel est le regard de ce qui...
Ouais, surtout quand tu vas tout seul, quoi. Quand tu vas toi tout seul.
Ouais, effectivement, ça je peux le dire, et tu l'as bien dit, quand je vais tout seul, parce que la plupart du temps, j'essaie d'aller d'accompagner d'une personne du social de Dune ou un truc, ça se passe beaucoup mieux. Et c'est vrai que voilà, on se sent inférieur, il faut justement, comme je disais, il faut trouver ces structures en qui on a confiance déjà.
Voilà, comme moi, il faut trouver par exemple un psychologue en qui vous avez confiance. Je ne sais pas moi, une assistante sociale en qui vous avez confiance, parce qu'on est malade, on a besoin de se confier. Ce n'est pas pareil que si je me confie à mon pote. Il faut, on va dire, allez, un neutre. Et on a besoin de se confier. Et puis les gars, on n'est pas des tarés. On est malade. La maladie, ça se soigne. Donc, voilà. Mais c'est vrai que l'infériorité, comme tu dis, on peut le dire, on se sent comme des merdes. On se sent vraiment en bas. Ça nous décourage. Et aussi, il faut le dire que le gros problème de la rue et de la consommation, c'est l'hébergement. Il y a des gens qui ne sont pas tombés dans la consommation parce que, voilà, ils ne consommaient pas, ils n'ont pas eu d'hébergement, ils se sont retrouvés à la rue avec des consommateurs et l'engrenage. Donc, que ce soit d'un côté, que ce soit de l'autre, il y a des étapes à suivre, malheureusement. Et je vous ai dit, la formule, elle n'est pas magique. Il n'y a pas. C'est la volonté, le vouloir et le but. Après, il faut trouver ce truc, quoi. Parce que, voilà, ça ne sert à rien, je vous dis, d'accrocher avec truc. Essayez d'accrocher avec quelques personnes, avec un but. Et ces personnes-là, elles vont vous aider. Voilà, comme moi, quand j'ai été, je vous dis, avec la procédure Nixon, je suis arrivé, on m'a pris avec les menottes, la police, devant un psychiatre. Le truc qui m'a choqué, elle m'a dit, monsieur, elle m'a parlé avec moi 20 minutes, la psychologue était avec moi. Elle m'a dit, vous n'êtes pas fou, vous êtes malade. Ce sont tous des trucs, on ne se sent pas infériorisé comme une merde. Elle ne m'a pas dit, vous êtes un toxicomane. Du coup, ce sont des trucs, comme tu dis, qu'on se sent comme une merde, quoi, au fait.
Oui, voilà.
Voilà. C'est des jeux de mots, et que nous, on est émotionnels, on est faibles. Et qu'on a besoin de courage, pas de rabaissement, en fait. Après, voilà, il faut trouver les personnes. Il n'y a rien à faire. Tout seul, on va y arriver nulle part. Tout seul, on peut avoir toute la volonté du monde, on va arriver nulle part. C'est pas compliqué. Ça, c'est sûr, c'est clair. Tout le monde a la volonté, à mon avis. Tout le monde a la volonté et qu'il lui manque un petit truc déclencheur. Que ce soit un, que ce soit, par exemple, moi, au début, je disais, c'est mon appartement, ben, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas mon appartement, parce que, ben, j'ai eu l'appartement, j'ai payé un mois, deux mois, troisième mois, ben, j'ai pas payé, je vous fais pas le récit. Donc, voilà. Trois, quatrième mois, j'ai pas payé, je vous fais pas le récit non plus, je me suis retrouvé à la rue, et ainsi de suite. Et c'est l'engrenage. Donc, mon truc à moi, déclencheur, c'était d'abord moi, me soigner. Donc, ça, c'est déjà un gros poids en moins, et c'est un gros truc. Et malheureusement, on a besoin de les écouter, ces gens-là. Ben, pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils sont structurés, ils sont, je ne vais pas dire plus clairs, mais plus lucides que nous, quand même, et qu'ils ont une vie que nous, on a envie, en fait. Donc, voilà.
Ben avec ça, on va écouter encore un peu de musique. Ce sera David Bowie, Ziggy Stardust, c'est ça ? Voilà.
Ziggy played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played it left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang Screwed up eyes and screw down hairdo, like some cat from Japan. He could lick 'em by smiling, he could leave 'em to hang. They came on so loaded, man, well hung in snow white tan. Time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass.
Wayne took it all too far. But boy, could he play guitar. Making love with his ego, sick and sucked up into his mind. Like a leper messiah. When the kids had killed a man, I had to break up the band.
Donc on est de retour avec l'émission sur la santé mentale avec Mar de Transit et Nadine de Le Pont. On en était à, ouais, en fait on va faire un peu les conclusions. En fait j'ai quand même une question pour toi personnellement Nadine. Comment on se sent quand on a quand même Rachid c'est quand même un peu une réussite.
Ouais.
Comment on se sent avec une réussite pareille? Qu'est-ce que ça fait pour nous? Bah, qu'est-ce que ça fait pour toi personnellement?
Ça on fait pas, plaisir,
on
fait, évidemment.
On ne peut pas dire que ça... ça...
évidemment que ça fait plaisir, mais c'est vraiment une construction à deux et c'est un apprentissage à deux vraiment très fort. En fait, quand Rachid parle, tu me dis si je me trompe, mais quand il parle de cette personne en qui on peut faire confiance, ça passe ou ça ne passe pas, que ce soit, quel que soit le service. Ici, ouais, mais ça a matché.
Ça se construit depuis combien de temps entre vous deux, cette relation voilà. Voilà.
Là, on est fait voir de toutes les couleurs. Elle a galéré avec moi, elle m'a accompagné.
Voilà, mais ce qui est bien, c'est qu'elle est, ce qui est bien, c'est qu'elle est toujours restée, quoi.
Ouais. Pour moi, c'est très important. Avec les personnes avec lesquelles on travaille, c'est un accompagnement au long cours. Et il y a du haut, il y a des bas, mais c'est d'être toujours là. La personne ne vient plus, elle disparaît dans la nature. On regarde un peu, voir si on a des nouvelles. On lui court pas trop après non plus, mais la porte reste ouverte, toujours. Toujours, toujours, toujours. La porte reste ouverte et c'est important, toujours. Et c'est aussi, ah, la personne a disparu, mais on sait qu'elle est en lien avec un autre. Remettez-lui mon bonjour.
Oui, Nadine, simplement. On avait parlé d'un truc comme ça. On avait fait une réunion la semaine dernière. Ouais. Tu nous parlais des agents de quartier ou je ne sais pas quoi. Là,
les gardiens de la paix.
Voilà, les gardiens de la paix. Il y avait quand même une grande importance pour vous.
Énormément.
C'est la première ligne, hein. C'est eux que parfois, justement,
voilà, mais c'est pour ça que j'en parle. On oublie.
On pas les
on
personnes.
On a presque oublié de les dire.
On a tendance, c'est vrai, à oublier les gardiens de la paix qui sont quand même pour moi très très importants par rapport aux personnes qui sont en rue. On peut avoir tous les services spécialisés, infirmiers de rue, transit et autres. Les gardiens de la paix ont cette particularité qu'ils ne font pas d'accompagnement, mais qu'ils sont toujours présents sur un quartier précis. Donc, les personnes qui sont en rue, c'est avec les gardiens de la paix qu'elles sont en lien d'abord. Alors, parfois, il y a des méfiances, c'est quoi le porto, machin, etc. Ceci dit, quand il y a des descentes de flics au niveau de Ribeaucourt, c'est quand même chez les gardiens de la paix qu'ils vont, tout le temps. Les gardiens de la paix les emmerdent un peu parce que quand ils consomment sur les escaliers des métros, ils ont pour mission, effectivement, de leur dire, écoutez, c'est problématique, il y a des gens qui passent, il faudrait dégager. Mais le lien est là quand même. Et en quoi c'est intéressant? Les personnes qui consomment, qui sont en dépression, qui ont des soucis de santé mentale importants, de type psychose, etc., on observe quand même, je crois que Marc, tu ne me contrediras pas, qu'il y a des soucis de mémoire. Et donc, ok, on fait des démarches, hein, logement, santé, médecin, etc., rendez-vous tel jour devant le magasin à Ribeaucourt, machin, tel jour, telle heure. La personne n'est pas là. Si le rendez-vous est fixé trop tôt, la personne a en général oublié. Là où les gardiens de la paix, c'est vraiment super, c'est qu'on peut appeler les gardiens de la paix. Est-ce que tu peux rappeler à monsieur machin chose, à madame machin chose, que demain, 11h, on sera là pour un rendez-vous? Ça valorise les gardiens de la paix, qui ont un sentiment d'impuissance énorme parce qu'ils sont au quotidien là et qu'ils ne peuvent pas faire d'accompagnement. Et donc, c'est aussi au niveau des gardiens de la paix, vraiment les aider à ce qu'ils connaissent bien, bien, bien le réseau associatif. ils ont eu une formation, deux formations, une organisée par Dune, une organisée par Transit, comprendre les produits. Comment est-ce que je réagis avec un mec qui est en manque d'héros? Comment est-ce que je réagis avec un mec, et comment je perçois ça? Quand il est en train de consommer, je réagis comment? Etc. Comment est-ce que je ramasse des seringues? Ils sont là tout le temps. Et donc, qu'ils aient cette connaissance-là, qu'ils sachent où appeler, qui appeler, et comment, déjà ça, soutenir les personnes qui sont en rue. Donc moi, ils ont tout mon respect.
Ouais, c'est très très important, et les gardiens de la paix, comme tu dis, parce que c'est la première ligne, parfois c'est eux-mêmes qui rencontrent les personnes d'abord, parce que voilà, les personnes en rue, ils essaient de se casser le maximum possible pour ne pas être visibles déjà de la police ou des autres habitants des quartiers, que parfois ils ne sont pas contents qu'ils soient en rue dans son quartier. Non, c'est les gardiens de paix parfois qui nous disent voilà, il y a une personne qui est en difficulté, qui est dans tel endroit, c'est nous qui en passe. Mm-hmm. Mais ce n'est pas que eux, c'est après tous les services qu'on travaille justement ici, justement, je dis à Bruxelles parce qu'on travaille ici, que si la personne est d'accord, on puisse se mettre à travailler ensemble et créer vraiment avec la personne un planning pour justement avec ses en prenant les décisions de la personne, mais en essayant de l'orienter aussi, pour qu'elle ne traîne pas à droite et à gauche, il perd le temps, sinon, entre tous, créer une dynamique pour avancer et que la personne il arrive le plus rapidement au bout, justement, de ce qu'il attend de sa vie et ce qu'il veut changer aussi, pouvoir l'aider. Donc, je pense que la collaboration entre services est hyper importante.
Parce que justement, Marc, ta réussite à toi, c'est qui?
Pardon, dis-moi.
Parce que bon, je tenais à te remercier, mais ta réussite à toi, c'est...
Écoute, je ne le considère pas comme une réussite à moi, je le considère comme un travail que j'adore. Donc, j'essaie de ne pas mettre ni les réussites, ni les faillites sur moi, sinon, c'est la temporalité de la personne, ce n'est pas parfois un essai. C'est simplement une marche arrière que ça peut se remonter une autre fois. Et les réussites, c'est la même chose, c'est les réussites de la personne. Donc je me sens fier de la personne qui avance. Et quand la personne n'avance pas, je suis là pour le soutenir et pour lui dire
OK, moi,
aujourd'hui ça n'a pas été, mais demain ça ira mieux. Si.
Parce que grâce à Marc, je suis en appartement, hein, l'air de rien. Mais parce que justement.
C'est pas que grâce à Marc, c'est toi aussi, tu as bougé avec elle quand même.
Mais parce qu'il faut dire aussi, c'est que bon. En plus que la personne accroche. Ah, merci. Merci à Marc. Parce que bon, la difficulté aussi, c'est qu'une personne soit fidèle à son projet, mais aussi la confrontation qu'on a par rapport aux services qui ne sont pas non plus.
Je pense que tous les services dans les sociétés où on vit, surtout dans les grandes villes, c'est. Les gens, ils sont très égoïstes, ils pensent uniquement à ces problèmes. Et on est tous un numéro quand on va dans une administration. Mais c'est vrai qu'une personne qui a, que sa vie, il marche bien, il va pas se sentir mal à l'aise parce que, il ne parle pas trop bien dans un service. Peut-être ça va le durer de la tête 5 minutes. Mais une personne qui se sent déjà, le manque de confiance en lui, il a mal à faire des démarches, il se sent un peu en infériorité. Si en plus il est reçu, mal reçu pour les services, c'est vrai que ça peut justement faire que sa personne se freine et ne décide pas justement de donner les pas qu'il doit faire pour avancer. Donc,
En tout cas, je voulais vous remercier pour votre venue. Merci. C'était cool.
Merci aussi à Rachid, surtout.
À Rachid qui croyait qu'il avait rien à dire, mais en fait.
Ne tuez pas le temps, profitons-en.
Voilà. c'est avec ces mots qu'on va vous laisser.
En remerciant tous les travailleurs de rue.
Un petit mot pour tous les travailleurs de rue qui font ça quand même assez bien. Et merci.
Et surtout dire qu'on a un autre témoignage. Il a voulu, il a eu son appartement.
La volonté, on y revient.
Il était un peu intimidé aujourd'hui, je sais pas.
C'est marrant.
Il était intimidé, je sais pas. C'était bizarre. Merci pour votre écoute. À la prochaine. La prochaine, ça sera sur le bon plan. La sortie du nouveau bon plan. Donc. Oui.
Une info aussi par rapport à Radio Panique, pour les émissions transversales. Ah oui. Donc on participe à différentes choses, mais allez sur Internet, lisez les trucs. Tout est à vous, quoi.
Merci, à la prochaine.
Et donc voilà, à bientôt.
Merci à tous.
Deuxième mardi du mois, 19h. Clip Radio. Just what is it that you want to do? We want to be free. Do what we want to do. Sur Radio Panique. We want to have a good time. That's what we're going to do. We're going to have a good time. Clip Radio.